Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, il est temps de remonter le temps en chanson. 1974, la pire éruption de tornade, dite du Super Outbreak en Amérique du Nord, a lieu les 3 et 4 avril. Les 148 tornades ont fait 330 morts et 5484 blessés dans 13 États américains et l'extrême sud-ouest de l'Ontario au Canada. Georges Pompidou, président de la République, meurt le 2 avril 1974. Le secret sur sa maladie avait été gardé jusqu'au dernier moment. Le président du Sénat, Alain Poher, devient président par intérim. En 1973, Georges Pompidou appelait les Français à économiser l'énergie.
Un des autres grand problème, Monsieur le Président, actuellement pour l'ensemble des Français, les sondages le prouvent à l'heure actuelle, c'est le pétrole. Et dans ce domaine, peut-être à cause de quelques déclarations de membres du gouvernement pas très bien ajustées, certains se demandent si on dit la vérité aux Français en matière de la politique du pétrole. Alors, quelle est cette vérité? En d'autres termes, va-t-on manquer de pétrole ou bien n'en manquera-t-on pas dans les 6 mois?
Je ne sais pas ce que vous appelez l'ajustement des déclarations, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est que le problème du pétrole est à l'heure actuelle, en effet, un problème très actuel, très sérieux, et que la vérité, eh bien, elle est très simple. Et je suis prêt, en ce qui me concerne, à la dire. Cette vérité, la voici. Tout d'abord, notre politique, l'état de nos stocks, le rythme actuel de nos importations font que nous sommes à l'abri d'une crise grave dans les prochains mois. C'est un premier point et qui a, je crois, de l'importance. En second lieu, il faut reconnaître que la hausse des prix du pétrole aura une incidence sérieuse sur nos prix intérieurs. Il faut le savoir et il faut s'y préparer. En troisième lieu, il est exact que dans une économie qui était basée sur l'échange et sur la liberté du commerce, les raffineries françaises ne produisaient pas toujours tous les produits pétroliers nécessaires à notre consommation. Je prendrai un exemple, le benzène, eh bien, nous importions une bonne part du benzène de l'étranger, en particulier des États-Unis.
Cette même année, en 1974, c'est la révolution des œillets au Portugal. La rébellion de l'armée est conduite par de jeunes officiers sous la direction du capitaine Otelo Sareva de Carvalho. Une junte militaire de 7 membres, dont Antonio Spinola et Francisco da Costa Gomez, déclare assumer provisoirement le pouvoir. Marcelo Caetano se rend à Spinola et le président américo Thomas est mis en état d'arrestation. La démocratie est instituée. La foule envahit les rues de Lisbonne, fraternise avec les militaires qui reçoivent des œillets dont ils ornent leurs fusils. Marcel Pagnol, écrivain, producteur et réalisateur français, décède le 18 avril 1974.
Mesdames, messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. Son importance est à la mesure de l'enjeu. Le 19 mai, vous élirez l'un de ces deux candidats président de la République.
Le débat, à proprement parler, va donc durer 1h30.
Puisque je suis le premier à avoir la parole, permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir. Et à cette occasion, je remercie les 8 300 000 électrices et électeurs qui m'ont désigné pour participer à ce second tour. Ma première question est la suivante. Elle concerne la suite de l'élection présidentielle. Le président Pompidou est décédé le 2 avril dernier. C'est le 19 mai prochain que la France, par application de sa Constitution, aura un président de la République. Si je suis élu président de la République, que ferai-je? D'abord, je désignerai un Premier ministre. Je vous indique tout de suite que le choix de ce Premier ministre, je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas président de la République. Et la seconde, c'est que dans la désignation du Premier ministre, je compte tenir compte de la volonté qu'auront exprimée les Français, notamment le 19 mai prochain, et notamment de leur volonté de changement. C'est pourquoi j'attends de connaître le résultat de l'élection pour choisir le Premier ministre. Avec ce Premier ministre, suivant la Constitution, nous composerons un gouvernement. Ce gouvernement sera composé pour l'essentiel d'hommes nouveaux, d'hommes jeunes, et il devra comporter également un certain nombre de femmes. Et ce gouvernement se mettra au travail tout de suite. Il travaillera avec qui ? Il travaillera avec la majorité parlementaire. J'ai fait le compte des députés qui soutiennent la candidature de M. François Mitterrand, de ceux qui soutiennent la mienne, et à l'heure actuelle, la majorité, dans le cas de mon élection, représente à peu près 300 députés contre environ 180 députés pour M. François Mitterrand. Donc pas besoin de dissolution, la majorité sera en place, nous pourrons gouverner tout de suite. Et je demanderai au gouvernement de proposer, dans le courant du mois de juin, un programme économique et social garantissant l'emploi, organisant le développement économique et traduisant dans les faits les premières décisions de justice sociale et de réforme sociale que nous avons annoncées au cours de cette campagne présidentielle. Donc, je me résume. Si je suis élu président de la République, dans la semaine qui suivra, la France aura un gouvernement et ce gouvernement, disposant d'une majorité à l'Assemblée nationale, pourra travailler tout de suite. Alors, la question que je pose à François Mitterrand est la suivante. S'il est élu président de la République, à quelle date la France aura-t-elle à la fois un gouvernement et une majorité permettant à ce gouvernement de travailler?
Eh bien, je suis là pour vous répondre avant de poser moi aussi des questions. La Constitution existe, elle implique des obligations. Ce que vous avez décrit, c'est la réalité de demain. Elle s'imposera à moi comme à vous. Élu le 19 mai, j'aurai donc à choisir un Premier ministre. Je le ferai. J'ai déjà dit, plus avancé que vous dans cette affaire, que je choisirai un député socialiste. Il me semble que j'ai besoin pour gouverner dans une situation qui représentera en effet de grands changements, d'être, comme on dit, sur la même longueur d'onde, en confiance, avec ce député socialiste que je désignerai lorsque le moment sera venu. Ensuite, il appartiendra au Premier ministre de présenter la liste de ses ministres, de constituer le gouvernement. Ce gouvernement sera constitué sur la base de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de toutes les forces politiques qui auront soutenu ma candidature au deuxième tour de scrutin. Quelles sont-elles? On les connaît. Nous aurons l'occasion d'en parler plus profondément tout à l'heure avec M. Giscard d'Estaing. Que fera ce gouvernement? Ce gouvernement, il devra présenter un programme. Et là intervient un élément nouveau, dans ce sens que depuis de longues années, les chefs du gouvernement, M. Messmer notamment, et ses prédécesseurs avant lui, n'ont plus jamais présenté de programme à l'Assemblée nationale assorti d'un vote, comme on pourrait dire pour bien se faire comprendre, de confiance. C'est-à-dire que les différents gouvernements n'ont pas véritablement soumis leur programme à l'assentiment du Parlement, ils sont restés à côté de l'opinion des élus du peuple. Ils ne s'y sont pas intéressés. J'estime qu'il faut revenir à la règle constitutionnelle qui a été appliquée par le général de Gaulle pour ses premiers gouvernements, à savoir que le gouvernement devra présenter son programme et l'Assemblée nationale devra se prononcer sur ce programme. Quel sera ce programme? Essentiellement, puisque nous serons à la fin du mois de mai, il conviendra de s'attaquer d'abord à ce que M. Giscard d'Estaing a jusqu'ici beaucoup négligé, je veux dire à l'inflation, à la hausse des prix. Il faudra véritablement tenter de transformer l'espèce de débandade qui fait que le gouvernement actuel accepte tout et n'importe quoi, de peur peut-être de se compromettre ou de prendre ses responsabilités, ou bien alors parce qu'il estime que l'inflation profite aux intérêts qui lui sont chers. Ce plan anti-inflation sera donc soumis aux députés. Les députés l'accepteront ou le refuseront. les députés accepteront ou refuseront la majorité que je présenterai, la composition du gouvernement qui aura été pratiquement admise par le Premier ministre et par moi-même. C'est à partir de là que nous saurons ce qui se passera.
Mon vieux est une chanson française de variété écrite par Michel Senlis et composée par Jean Ferrat en 1962. Son interprétation la plus connue est celle de Daniel Guichard en 1974, la troisième version dédiée à son père mort quand il avait 15 ans, dans une version dont les paroles sont réécrites par Senlis et Guichard.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne, ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.
Le temps d'une chanson, un mardi par mois à 22h. Sur Radio Campus Paris.
En 1962, Michel Senlis écrit le texte « Mon vieux » en hommage à son père, texte que Jean Ferrat met en musique en 1963. La même année, la chanson est interprétée par deux chanteurs, Jacques Boyer et Jean-Louis Stein. Le 7 novembre 1963, le père de Michel Senlis meurt. Cette dernière demande alors que la chanson ne soit plus exploitée. Toutefois, en 1974, elle accepte de co-signer la reprise de Daniel Guichard. Plus tard, elle déclare regretter ce geste car elle reproche à Daniel Guichard d'avoir interprété dès 1973 la chanson avec des paroles retouchées sans son accord et que tous le lui aient caché au moment de signer. De plus, à la suite de l'énorme succès recueilli par la reprise de Daniel Guichard, Michel Senlis dit avoir mal vécu la fausse filiation que les journalistes ont faite entre Daniel Guichard et la chanson. En 1967, en collaboration avec Francis Lay, elle écrit une chanson interprétée par Jacqueline Dulac, « Venise sous la neige ». Mais c'est avec Jean Ferrat que la collaboration est la plus fructueuse et durable. Parmi la trentaine de chansons écrites en collaboration avec lui, on retiendra notamment « Mon vieux », première version de 1963, et parmi la douzaine enregistrée par Ferrat, « Chanson pour toi »,« C'est beau la vie », »,« Les derniers Tziganes », »,« Les nomades », »,« À moi l'Afrique ». Elle écrit pour d'autres interprètes, dont Fabienne Thibault, pour qui elle a composé « Comme les enfants » ou encore Noël Cordier, Georgette Lemaire, Mireille Mathieu, Régine et Jacques Hustin. L'année 1958 en France est marquée par des bouleversements politiques majeurs, notamment le retour de Charles de Gaulle au pouvoir et la création de la Ve République. En 1958, la France est en pleine guerre d'Algérie, un conflit qui dure depuis 4 ans et qui divise profondément la société française. Les tensions entre les partisans de l'Algérie française et ceux qui plaident pour l'indépendance sont à leur comble. Le 13 mai 1958, un coup de force des partisans de l'Algérie française à Alger entraîne une crise politique majeure. Face à cette situation, le gouvernement rappelle Charles de Gaulle qui revient au pouvoir le 1er juin avec des pouvoirs exceptionnels pour rédiger une nouvelle constitution. La nouvelle constitution est approuvée par référendum le 28 septembre 1958, marquant la fin de la 4e République et l'établissement de la 5e République avec un pouvoir exécutif fort, centré sur la présidence.
C'est le jour anniversaire de la naissance de la 3e République qui a été choisie par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la 5e. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution.
Dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.
Et le général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent
qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France!
L'eau vive est une chanson française écrite, composée et interprétée par Guy Béard en 1958, elle obtient un énorme succès et demeure un classique du répertoire de Guy Béard.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du rameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Emporté par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselé au large s'en est allé.
En 1957, la carrière de Guy Béard est en pleine ascension. Récompensé par l'Académie du disque français pour son premier album 33 tours, il fait la première partie de la chanteuse italienne Caterina Valente à l'Olympia, où malgré ses trous de mémoire et ses fous rires incontrôlables, il obtient un joli succès. L'année suivante, il est choisi pour composer la musique du film de François Villiers, L'eau vive, adapté du roman de Jean Giono. Malgré sa sélection au Festival de Cannes, le film passe relativement inaperçu auprès du public. Toutefois, la chanson principale, L'eau vive, qui revient régulièrement dans le film, remporte un grand succès commercial qui lance véritablement la carrière de Guy Béard. Entré le 14 juin 1958 au hit-parade des ventes de 45 tours, elle reste pendant 3 semaines à la première place. La chanson doit une part essentielle de son succès à la simplicité de sa mélodie et de ses paroles. Hormis pour 2 vers de la 3e strophe, Guy Béard n'utilise que 3 rimes, « eau »,« ive » et « et ». Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis des années, elle ne possède aucun double sens érotique caché ou sous-entendu. En 1958, Michel Debray se livrait à une explication de texte sur la Constitution de 1958 et notamment sur le rôle du président de la République, instructif pour aujourd'hui.
La seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique et plus libérale si l'on veut rester dans un régime de liberté.
Monsieur le ministre, l'une des principales objections que certains font à la nouvelle Constitution, ce sont les pouvoirs exceptionnels qui sont accordés au président de la République. C'est votre sentiment ?
Je vais vous lire l'article. C'est une chose que devraient faire plus souvent les contradicteurs. Que dit l'article 16 ? Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, où l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. C'est un article exceptionnel. Et une constitution qui est faite pour durer doit prévoir, surtout à l'époque que nous vivons, des moments difficiles. Et pour ces moments difficiles, fixer les responsabilités, donner les pouvoirs nécessaires, et il est apparu, d'une manière qui ne peut pas être contestée, que c'est le président de la République, garant de la légitimité nationale, qui doit porter ses responsabilités et qui doit, par conséquent, exercer éventuellement les pouvoirs nécessaires.
Faut rigoler est une chanson d'Henri Salvador, écrite par Boris Vian et composée par Salvador en 1958. Le titre sort en single en juin 1960, puis est republié en janvier 1961.
Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête.
Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, inventèrent le tabac. Et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois.
Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel ne tombe sur la tête.
Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois.
Cette émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bonne écoute en podcast.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.